Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Donc, on est de retour à 10h32. Les chroniqueurs les plus cool de la CFAQ. On repart justement sur un petit peu de politique américaine. Je vais essayer de rebondir un petit peu sur justement ce que mon collègue Enzo disait tout à l'heure, qu'il y avait une désertation en fait de la jeunesse du Parti démocrate. Donc, il arrêtait d'endosser Joe Biden, notamment dû à sa gestion de la crise israélo-palestinienne. Et comme il disait, Marc-Antoine, on l'appelait Genocide Joe. Donc, ça a l'air que certaines personnes l'appelaient Genocide Joe, qui l'appellent probablement encore comme ça. Et on arrive, parce qu'on s'entend, c'est Donald Trump qui va représenter les républicains là, très fort probablement. Donc, on se retrouve avec la même chose que quand les deux se sont affrontés, mais pire. Joe Biden, on dirait que sa santé se dégrade à des niveaux un peu plus possibles. Il aurait dernièrement, c'est ce que mon collègue Enzo disait, il aurait dernièrement appelé Macron Mitterrand.
Effectivement, oui, il y a la question palestinienne qui est assez assez terrible, puis qui est très critiquée par les jeunes. Et il y a l'état de santé du président Joe Biden qui fait beaucoup son âge en réalité. On voit qu'il y a toutes ces pertes de mémoire qu'il a pu avoir, tous ces moments où il y a des conférences ou des meetings et il part en pleine conférence parce qu'il perd un peu la notion de l'espace, de où il est. Des moments où il a lu les petits caractères des prompteurs, ce qu'on n'est pas censé lire, genre à la fin du prompteur,
oui,
d'ailleurs,
oui.
Fin du prompteur. Il y a toutes ces choses-là. Il va... Effectivement, dans une conférence où il parlait d'Emmanuel Macron, il a parlé de François Mitterrand. François Mitterrand.
Il est mort en 96.
Il est mort en 96, ouais. donc, il y a. Et c'est pas des petits problèmes de mémoire, c'est vraiment très, très, très souvent. Puis on voit que. On voit, même si lui dit que les médecins disent qu'il va très bien, à l'image, en tout cas, dans les médias. On ne peut voir que son état de santé se dégrade, des problèmes de mémoire, d'élocution, de... Donc, ce qui fait que les jeunes ont du mal à faire confiance à un président qui pourrait avoir de ou les jeunes ou les électeurs en général, à quelqu'un qui pourrait avoir de lourds problèmes de santé pendant la présidence.
C'est ce qui fait peur, excuse-moi, je t'interromps vas-y. C'est ce qui fait peur, justement, Joe Biden... C'est juste ce qu'on voit nous fait peur sur sa santé. On voit pas ce qui se passe en arrière. Puis on le sait tout, la politique jusqu'à un certain point, c'est un stage, c'est un spectacle.
Ah, c'est une image, oui.
Tout est cordé serré, ils savent quoi dire. Dans les débats des chefs, c'est des millions et des millions que nous, on met, par exemple, juste au Québec, juste pour qu'on sache qu'on soit capable d'attraper la phrase accrocheuse pour s'assurer que tout soit parfait. C'est des mois de préparation. C'est
la bataille des idées.
C'est ça. Puis, puis on
la bataille des médias, quoi.
C'est ça, exact. Puis on a Joe Biden,
bravo,
qu'on le voit qui a de l'air complètement dément. Et c'est juste ça qu'on voit. Donc, il y a tout ce qui est en arrière qui est caché. Je sonne comme un conspirationniste, c'est bon, là. Mais tu sais, c'est ça. Au final, on a ça, et de l'autre côté, on a Donald Trump qui enchaîne les présentations devant les cours. Il se fait poursuivre à droite, à gauche. Des États le rend inéligible à se présenter dans ces États-là, notamment le Colorado, la Cour suprême du Colorado, qui l'a rendu inéligible
Maine aussi, d'ailleurs. Pardon de l'interruption.
Non, pour Maine aussi. Il peut plus retourner, en fait... j'ai juste le terme en anglais. Run again for president. Parce qu'il aurait, en fait, violé, en fait, la provision du 14e amendement qui empêche ceux qui ont engagé en insurrection, en fait, de pouvoir être en siégé, en fait. Donc, ce que je trouve intéressant, c'est que là, c'est rendu à la Cour suprême à la, ouais, c'est à la Cour suprême américaine et qui sont en train de justement voir si Donald Trump va pouvoir en fait être éligible. Donc il y a plusieurs. C'est tellement un sujet hyper intéressant parce que ça va créer une nouvelle loi probablement parce qu'on n'a jamais eu ces questions-là qui ont été posées justement en cours. 10 États ont lancé la question, mais évidemment, c'est à la Cour suprême américaine de répondre à ça parce que sinon, c'est toutes les cours de tous les États qui vont devoir justement décider par eux-mêmes. Et donc, question de voir si justement il va pouvoir siéger. Puis la défense notamment de Donald Trump, c'est que il y a l'immunité en fait présidentielle qui l'empêcherait en fait de d'être accusé justement et qui lui permettrait justement de pouvoir justement être président encore ou en tout cas du moins de faire partie de la course électorale. Donc d'un côté on a un Donald Trump qui incite la Russie à attaquer ceux qui sont en tête de défaut de paiement et de l'autre côté on a un excuse-moi, Joe Biden, mais un sénile qui a de la misère en ligner trois phrases. Je trouve ça vraiment intéressant parce que nous, c'est vraiment moins palpitant habituellement nos élections, justement. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez sur les perspectives, en fait, notamment démocratiques de ça. Là. Parce qu'à la fin de la journée, imaginons que Donald Trump repère, en fait, face à Joe Biden. Est-ce que son électorat va être capable d'accepter la défaite une deuxième fois? Ou ça va être une autre attaque du Capitole? Tu sais, non, mais moi, je pense que tout est possible, en fait. Puis Donald Trump, c'est pas comme s'il s'était calmé. Tu sais, d'après moi, il va probablement être pire, justement. C'est ce que, justement, un de nos professeurs, Jean-François Daou, qui est professionnel de tout ce qui est système électoral, a dit, donc c'était un des enjeux, est-ce que la population américaine va être capable d'accepter la défaite de Donald Trump? Ou s'il gagne, est-ce que Donald Trump va faire une vengeance contre le système politique, le système judiciaire? Donc est-ce qu'en tant que président, il va limiter, peut-être débuter des politiques de limitation, justement, du pouvoir judiciaire? En tout cas, moi je trouve que c'est vraiment pas aussi palpitant que nous, ces élections-là, clairement.
Je pense que ton questionnement est légitime, d'ailleurs.
J'ai repris les propos, justement, d'un professeur émérite, quand même.
Surtout
que, c'est pas mes paroles.
Aussi, quand on sait que, lors de son premier mandat, Trump a eu l'opportunité que pas beaucoup de présidents ont eu. Il a eu la chance de nommer trois juges à valeur plutôt conservatrice à la Cour suprême.
Dont Kavanaugh.
Oui, dont Brett Kavanaugh, Amy Cohen Barrett aussi. J'ai oublié le troisième nom.
Mais c'est tout c'est tout des conservateurs. C'est pas pour rien que le jugement Roe v. Wade a été renversé. On va dire ça comme ça.
Roe v. Wade, ça c'est celui sur l'avortement.
Oui, c'est ça. Pour ceux qui savent pas, le jugement Roe v. Wade, c'est ce qui permettait en fait le droit à l'avortement et qui a été renversé notamment dû à ses nominations de juge, là, je t'ai interrompu.
Ce qui fait que l'avortement n'est plus constitutionnalisé et c'est chaque État est libre de choisir s'il protège ou pas la liberté de l'avortement.
Ça, c'est tout Donald Trump. Là. C'est directement un impact de ses nominations.
Ouais, il était très. Quand il était président, il était très partisan de laisser plus d'autonomie aux États. Ce qui a notamment fait que la gestion de la COVID aux États-Unis a été assez hasardeuse. Notamment, Bob Woodward a écrit là-dessus dans ses livres sur les présidents, sur Trump, justement.
Donc, sur ça, je pense qu'on va laisser mais, ça.
Pas oublier que on parle beaucoup de l'âge de Biden, parce que c'est vrai qu'il l'est fait, hein, il l'est fait les 81 ans. mais il ne faut pas oublier que Trump, il a 77 ans aussi, hein, ils ont 4 ans d'écart. Hein. Trump est un président américain qui est très âgé aussi. C'est peut-être pour ça aussi qu'il peut y avoir un décalage. Je ne fais pas de l'âgisme, hein, au contraire, je suis pas dans ce truc. Moi, je ne pense pas qu'il faut forcément mettre des jeunes au pouvoir. Je pense qu'il faut des gens avec des idées. Jeunes, des idées qui sont dans le progrès. Hein. Je pense pas qu'il faille mettre des jeunes pour avoir des idées plus jeunes. Enfin, on l'a vu là en France, par exemple, il y a un nouveau Premier ministre qui est tout jeune, mais bon, il a des idées qui sont quand même très réactionnaires, donc ça n'a pas forcément de lien. Mais ce que je veux dire, c'est que ça peut, ceci dit, expliquer un vrai décalage entre, comme je disais tout à l'heure, la base et les dirigeants, les militants et les dirigeants de parti, la jeunesse et les dirigeants du parti. C'est peut-être pour ça qu'il y a les intérêts, les intérêts politiques et économiques aussi, mais le décalage peut aussi être lié à cette phase-là, le fait que les politiciens ne sont pas forcément en phase avec les réalités du moment, quoi, le temps présent.
Oui, puis justement, cette polarisation-là aux États-Unis font que, finalement, peu importe le politicien qu'il y a, ils sont très peu, justement, engencés avec avec sa population. C'est vraiment, c'est ça, républicain fait quelque chose, les démocrates font l'autre. Et c'est au final que ça crée peu de discussion, puis que peu d'écoute, en fait, pour sa population. Donc, sur ces belles paroles, je pense qu'on va vous laisser pour une petite pause musicale et publicitaire, et on se retrouve pour la conclusion de cette, finalement, journée qui était très, très politique américaine. Et donc,
c'est vrai, on était finalement un peu sur une spéciale États-Unis. On était sur une spéciale Trump aujourd'hui.
Oui, spéciale Trump. Donc, petite pause musicale et on se revoit tout de suite après.